l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Montauban, 93.3.
Et cet été, on est toujours très content de vous retrouver dans ce Présence Midi pour passer une heure ensemble pour parler de notre belle région. Dans quelques instants, on parlera de l'actualité grâce à Clémence Roux qui sera avec nous. Et puis, eh bien, le recteur du sanctuaire, le père Michel Dauban, sera également là avec au micro de David Torchala. Et oui, le pape Léon XIV va venir à Lourdes. Eh bien, les préparatifs, comment se déroulent-ils? Eh bien, vous le saurez, bien sûr, si vous restez à notre compagnie. Et puis, vous le savez, l'été, c'est le moment des camps scouts. Et bien, pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, un groupe est prêt à partir et ils sont au micro avant leur départ de Laurence Houdemont. Et puis, une émission un peu spéciale aujourd'hui. On va plonger dans l'histoire grâce à notre futur chroniqueur, monsieur Philippe Lafargue. On va parler de l'hymne national. Oui, la Marseillaise, tout le monde la connaît, tout le monde la chante. Elle sera chantée demain, 14 juillet, sur tous les frontons d'église et également des frontons des commémorations, bien sûr, du 14 juillet. Eh bien, d'où elle vient, et vous verrez, vous êtes surpris de savoir de l'origine de ce morceau, mais elle n'a pas été l'hymne national au fil de l'histoire. Il y a d'autres hymnes qui ont été choisis. Eh bien, on va faire une remontée dans le temps et puis on va écouter un peu toutes les hymnes qui ont traversé le temps pour avoir aujourd'hui donc cette fameuse Marseillaise. Restez à notre compagnie, mission spéciale donc avant le 14 juillet. Mais pour l'heure, retrouvons la petite Clémence Roux, étudiante, pour avoir l'essentiel de l'actu.
Bonjour à tous. À Toulouse, la canicule inquiète SOS Médecins. Les professionnels de santé redoutent une hausse du nombre de patients si les fortes chaleurs se prolongent. Près de Toulouse, un incendie a parcouru 6 hectares de végétation à Saint-Alban. Plusieurs habitations ont été menacées par les flammes avant l'intervention des sapeurs-pompiers. Actia Aerospace poursuit son développement dans le secteur spatial. L'entreprise investit 8 millions d'euros dans un nouveau site à la Ramée, à la Toulouse. En sport, le Stade toulousain fait appel de l'amende de 2 880 000 euros infligée par la Ligue nationale de rugby dans le dossier du Salary Cap. Enfin, à Albi, des expositions retracent les 30 ans du festival Pause Guitare. Plus de 1500 artistes ont participé à l'événement depuis sa création. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci beaucoup Clémence Roux, qu'on retrouvera tout à l'heure à partir de 12h30 pour le journal de la mi-journée. Vous le savez, hein, vous l'avez entendu parler, c'est l'événement au mois de septembre, fin septembre. Le pape Léon XIV sera en France et il viendra le dimanche faire un petit crochet par la ville mariale, par Lourdes. On écoute les préparatifs de la venue du pape avec le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, le père Michel Dauban, qui est au micro de David Torchala.
Présence dans la cité mariale, 96.
Dans quelques semaines, Lourdes accueillera le Saint-Père Léon XIV, un événement historique qui se prépare depuis de nombreuses semaines maintenant, d'abord dans le secret et puis de manière officielle désormais. Derrière cette journée, il y a une organisation considérable, des centaines de personnes mobilisées, peut-être même un millier, vraiment un défi pour accueillir une foule immense. On parle de 150 000 pèlerins, près d'un millier de journalistes venus du monde entier pour assurer une retransmission télévisée internationale. Pour nous ouvrir les portes de cette préparation, nous recevons aujourd'hui le père Michel Dauban. Bonjour père.
Bonjour David.
Vous êtes le recteur du sanctuaire. On imagine que vous avez pas mal de choses à faire en ce moment. À quoi ressemblent vos journées ?
Alors, au risque de vous décevoir, mes journées actuellement sont comme toutes les autres depuis que je suis recteur, à savoir qu'elles sont bien remplies, de fait. Et puis, effectivement, il y a ce dossier supplémentaire qui n'est pas négligeable, mais qui est géré avec beaucoup de confiance et de joie de la part de l'ensemble des équipes et donc aussi du recteur en particulier. Et voilà, c'est effectivement un travail supplémentaire, mais c'est aussi oui, un réel engouement pour ce sanctuaire qui a déjà accueilli Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, et donc de fait, je ne vais pas dire que nous sommes dans la routine, mais enfin, voilà, il y a une certaine habitude, et puis il y a quand même cette nouveauté de 2026 avec cette belle figure du pape Léon XIV que l'on se prépare à accueillir, fort aussi des images qu'on a vues récemment en Espagne et qui nous donnent à la fois, c'est vrai, une certaine pression, mais une joie qui reste intacte.
Ça fait depuis combien de temps que les équipes sont en place? Comment s'organisent-elles?
Alors les équipes, elles sont en place à partir du moment où l'annonce d'une visite officielle en France du pape a été annoncée, parce qu'effectivement on se doutait que le pape viendrait à Lourdes. Ensuite, il y avait quand même dans la tête de l'un ou de l'autre, et dans la tête de votre serviteur, pour ne rien vous cacher, cette hypothèse qui était formulée. Donc, petit à petit, l'information, la sensibilisation a été crescendo, et puis maintenant, c'est du travail. Alors, attends, est-ce qu'on peut citer ça? J'avais eu la joie de participer à la visite du président de la République, en visite à Rome pour rencontrer le pape, et Monsieur Macron m'avait sollicité. Je me disais que c'était peut-être pas totalement innocent non plus, et qu'il y avait quelque chose qui se préparait à la fois au Vatican et puis à la fois de la part des pouvoirs publics. Donc oui, effectivement,
il y a vraiment quelque chose qui se préparait. vous nous le confirmez. Les grandes lignes, en tout cas, de cette journée historique du 27 septembre sont déjà tracés, dessinés. Est-ce que rapidement vous pouvez nous dire un peu les grands moments de cette journée de pèlerinage pour Léon XIV?
Les grandes lignes sont tracées avec un programme qui n'est toujours pas officiel, dans la mesure où il n'est toujours pas validé par le comité de pilotage, y compris le comité de pilotage national avec la conférence des évêques de France. Et donc, tant qu'il n'est pas officiel et validé par le Saint-Père, désolé, je ne peux pas en parler. Bon, cela étant, le pape venant à Lourdes, il n'irait pas à la grotte de Massabielle, il ne célébrerait pas la messe, et éventuellement dans la prairie, puisque c'est quand même le grand espace qui permet d'accueillir une foule, que ce serait fort, fort, fort étonnant. Mmh. Voilà, donc dans le cadre de cette journée, alors il ne vient qu'une journée, nous sommes très très heureux et parfois quelque peu frustrés aussi, parce que dans une journée ça passe vite, et donc il y a forcément des visites qui auraient été souhaitées de part et d'autre, y compris de la part du recteur, et qui vont effectivement pas se faire parce que le temps est trop contraint, mais voilà.
Le sanctuaire va devenir, le temps de cette journée, l'un des lieux les plus médiatisés du monde, pendant voilà cette période assez courte, ce passage. Comment vous abordez cette médiatisation du sanctuaire?
Cette médiatisation, je l'aborde avec beaucoup de confiance, avec notamment le département de la communication et son directeur. On va gérer, et on va gérer d'autant plus que de toute façon, on est déjà dans un monde de la communication très marqué, et particulièrement depuis le Covid, puisque il y a toutes ces images qui, à la grotte, sont diffusées tous les jours et qui sont vues par des millions de personnes sur tous les continents, dans les différentes langues. Donc, en termes de communication, on a déjà une certaine expertise, et puis il y a aussi l'expérience des voyages des papes précédents, même si effectivement c'est un monde qui évolue beaucoup, et de fait on voit bien que les problématiques et les moyens, les possibilités ne sont pas les mêmes aujourd'hui en 2026 qu'elles étaient en 2008, en 2004 et en 1983. Donc de fait il y a une couverture médiatique qui se met en place, avec de de multiples réseaux, mais ça va se faire comme les autres aspects de ce voyage vont se concrétiser.
Vous pensez pas que tous ces dispositifs d'accueil, etc., va perturber quelque part le pèlerinage de certains? Derrière cette question, c'est comment continuez-vous d'accueillir les personnes en pèlerinage, les personnes malades notamment? Quel va être l'impact pour eux?
Alors, le grand défi, il y a plusieurs périodes. Le grand défi, c'est effectivement de préparer cette visite tout en permettant aux pèlerins qui, jusqu'à la fin septembre, avaient prévu de venir. La difficulté va être effectivement redoublée dans les jours qui vont précéder la visite, et les 15 derniers jours vont plus directement effectivement impacter les pèlerins qui viendront, notamment quant à la prairie qu'il faut évidemment aménager. Et puis pendant la visite du Saint-Père, et en particulier le dimanche 27 septembre, de fait, les pèlerins qui seront présents, ils viendront pour prier avec le Saint-Père, et en particulier à la messe. Donc les possibilités d'aller et de venir dans le sanctuaire seront extrêmement réduites, mais c'est l'évidence même. Et puis il y aura aussi l'après, puisqu'il faudra gérer le départ de cette foule, et puis faire en sorte que tout redevienne, j'allais dire, comme avant. Mais je crois qu'on sera jamais comme avant. On sera marqué fortement par la joie et par l'enthousiasme, par la foi qui aura été vraiment dynamisée chez les pèlerins, et puis aussi dans notre communauté d'accueil du sanctuaire, qui se mobilise aussi beaucoup. Tous ces salariés, tous ces bénévoles, les chaplains, les religieuses, voilà, tout le monde s'active actuellement pour la réussite de cet événement. Et de fait, on en sera transformé. J'ai souvenir d'un prêtre de Marseille qui m'a dit, quand le pape François est passé à Marseille, ça a réveillé la ville.
Ah oui.
Voilà. Donc, nous, on n'est pas endormis, hein. Mais de fait, on sera encore plus réveillés après qu'avant, j'en suis convaincu.
Nous savons que vous avez dans le cœur d'inviter le Saint-Père à rencontrer les personnes malades. Certes, elles seront, on l'imagine, au premier rang des célébrations, mais vous avez ce souhait de cette rencontre, et également de cette rencontre avec cette grande famille d'hospitaliers, de toutes ces personnes qui se mettent au chevet des malades pour les accompagner. Pourquoi souhaitez-vous cette rencontre?
Je la souhaite parce que les malades, la place des malades est fondamentale dans le sanctuaire. Ils viennent pour chercher une guérison à la suite de Catherine Latapie, qui a été la première miraculée le 1er mars 1858. Et de fait, même si les malades qui viennent ne cherchent pas tous directement une guérison physique qualifiée de miraculeuse, tout le monde vient chercher une paix du cœur, une paix de l'âme, et cette paix, elle est obtenue de la part de tous ces malades qui viennent accompagnés par des hospitaliers, et qui constituent le cœur de ce qui se vit ici dans le sanctuaire de Lourdes. Et on ne donnerait pas la place à ces malades, à ces hospitaliers, à tous ces petits, à tous ces précaires qui effectivement viennent à Lourdes dans différentes structures qui environnent le sanctuaire. Je pense que on faillirait à l'image que l'on veut vraiment donner du sanctuaire de Lourdes. Donc c'est fondamental de voir, comme vous venez de le dire, des malades et des personnes en situation de handicap au premier rang des célébrations, et en particulier de la messe qui sera présidée par le pape.
Père Michel Daubanne, une dernière question. Vous êtes le recteur du sanctuaire, vous portez naturellement la responsabilité avec l'évêque de cet accueil du pape à Lourdes, mais vous êtes aussi prêtre. Qu'attendez-vous, vous, personnellement, de cette journée?
Alors, moi, j'en attends beaucoup. Bon, je vous avoue que lorsque l'année dernière, avec Monseigneur Mika, nous étions allés à Rome pour inviter officiellement le nouveau pape Léon XIV, il y avait cet espoir et cette certitude au fond du cœur que de fait il viendrait. Donc ce que j'en attends, c'est que cette joie soit confirmée et même dépassée, et je suis pas très inquiet parce que je pense qu'elle se fera. D'autre part, vous évoquiez cette présence des malades et des précaires. Je pense à un jeune là, marqué par des précarités psychiques, psychiatriques relativement importantes, qui m'a dit il y a quelques semaines, j'espère que grâce à vous, je pourrai être vraiment devant le pape et je rêve de lui serrer la main. Alors en plaisantant, je lui ai dit non, tu seras au dernier rang. Alors évidemment, il s'est mis à crier, mais de fait, il n'était pas dupe et moi non plus. Et je crois que mon rêve le plus fou, ça serait de pouvoir être témoin de telles rencontres de qualité. Voilà, pour faire du bien à ceux qui viennent à Lourdes et à ceux qui sont à Lourdes, parce qu'ils cherchent du bien et ce bien que procure la foi.
Merci Père Michel Dauban.
Avec plaisir.
Voilà, dans les coulisses un peu de la préparation de la venue du Saint-Père à Lourdes, et le Père Michel Dauban était interviewé par David Torchala. Nous, on va partir avec les scouts, ils sont prêts à partir pour un périple. On découvre ça avec Laurence Houdemont, ce sont des scouts du diocèse de Tarbes-Lourdes.
Présence à Luchon 94 FM.
Bonjour Agnès Lattre.
Bonjour.
Et bonjour Zoé Bergère.
Bonjour.
Alors Agnès et Zoé, merci de m'accueillir ici. Vous êtes dans le local des Guides d'Europe à côté de la paroisse Saint-Martin et vous êtes en pleine préparation d'un camp qui va prochainement arriver. Alors peut-être avant de parler un petit peu du scoutisme du camp, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Alors bonjour à tous, je m'appelle Agnès, je suis chef-taine de compagnie à Tarbes, je m'occupe des guides, donc c'est des jeunes filles entre 12 et 17 ans, je les aide à préparer leurs activités et à découvrir la vie dans la nature ensemble, voilà.
Alors bonjour, moi c'est Zoé, je suis assistante depuis 2 ans d'Agnès, donc à la compagnie Deuxième Tarbes, et je suis très contente de pouvoir encore l'accompagner pendant le prochain camp avec beaucoup de joie pour aider toutes les guides à vivre un très bon moment là-bas.
Alors merci à toutes les deux, parce qu'effectivement c'est grâce à vous que ce camp peut avoir lieu. Alors concrètement, le camp c'est quoi ?
Le camp, c'est l'aboutissement de l'année. Toute l'année, les guides, donc les filles, sont réparties par équipe et préparent ce camp. Donc, elles choisissent quels sont leurs objectifs d'année, quels sont, à la fin du camp, sur quoi est-ce qu'elles veulent progresser. Et au camp, on réalise différentes activités afin qu'elles puissent vivre des aventures ensemble. Donc nous avons par exemple les installations. Donc quand elles arrivent, elles vont couper du bois dans les forêts afin de construire une table, de construire un vaisselier, de construire une tente surélevée, donc dans les arbres, afin de ne pas dormir sur le sol qui est dur. Et quand le camp dure 15 jours, au bout du compte, on a mal au dos. Elles vont construire ainsi différentes pratiques afin qu'elles puissent vivre le camp de manière le plus confortable possible. Il y a différentes activités aussi, des olympiades où le but c'est de se dépasser physiquement, de jouer ensemble, un grand jeu, donc là c'est une aventure à taille réelle ou dans un imaginaire. Par exemple cette année notre thème de camp c'est Narnia, voilà, donc là l'objectif ce sera, je vous le dis pas parce qu'on sait pas si avant trop spoiler, mais voilà, de jouer autour d'un thème, l'exploration aussi où elles partent pendant 2 jours marcher autour du lieu de camp pour découvrir les environs. Voilà, donc c'est différentes activités jouées et réalisées ensemble.
Cette année, il y a une petite particularité pour le camp, c'est qu'il se fait
en Espagne. Oui, cette année, Agnès avait eu l'idée en début d'année de faire un camp cousin avec une compagnie espagnole. Donc effectivement, on sera avec deux patrouilles d'une compagnie de Barcelone, ainsi qu'une patrouille de patrouille libre. Espagnol aussi. Et donc on sera juste en dessous de l'Andorre, en Espagne, à l'est de Sardaigne, du côté catalan. Et donc ça va être un challenge pour les filles et pour nous, pour pouvoir vivre avec des Espagnols, parler avec des Espagnols, s'adapter au rythme de vie espagnol en camp, s'adapter aussi à la législation espagnole, comme on ne pourra pas faire de feu. Donc on va devoir vivre au Butagaz, donc ce sera aussi une nouvelle expérience pour la plupart d'entre nous. Donc on a vraiment hâte de pouvoir vivre ce moment-là, qui maintenant sera très différent des autres camps qu'on a pu faire, mais qui, je pense, nous apportera beaucoup, et beaucoup de joie en tout cas, beaucoup de nouvelles rencontres et de nouvelles aventures.
Du coup, ça a demandé peut-être une préparation un petit peu plus particulière ?
En effet, au niveau de la préparation, ça a été plus fastidieux de préparer le camp. Donc l'idée, elle nous était venue l'année dernière en CDH de fin de camp. Donc la CDH, c'est la cour d'honneur, c'est là où on prend les grandes décisions avec les guides, donc avec les chef-ten des différentes équipes. Donc elles ont 17 ans et ensemble, on s'est dit, ah ben tiens, pourquoi pas faire un camp en Espagne avec des Espagnols. Et donc en effet, il a fallu trouver la compagnie espagnole, ensuite les contacter et ensuite communiquer avec elles pour choisir quelles seraient les activités qu'on ferait ensemble et qu'est-ce qu'on ferait pendant ces activités ensemble. Donc là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une visio de 4 heures en espagnol. Mon cerveau bouillait à la fin. Voilà. Donc c'est vrai que ça demande une organisation plus en amont et des compromis. Mais c'est très intéressant et mon espagnol n'a jamais été aussi bon.
Alors c'est la deuxième année, je crois, que vous êtes chef-ten de Zoé et Agnès. Moi j'aurais une question un petit peu par rapport aux filles. Elles ont donc entre 12 et 17 ans. Aller 15 jours comme ça dans la nature, se déconnecter, du coup pas de téléphone, pas de... Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui ça semble un petit peu archaïque tout ça.
Alors en effet, ça peut paraître surprenant et étonnant, et lorsqu'on en parle à des personnes qui ne connaissent pas, elles sont toujours très surprises, ou lorsqu'on a un visiteur qui vient sur le lieu de camp, il comprend jamais, il se demande « mais comment ça, vous faites ça ?» Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir téléphone, de ne pas avoir de réseau, de voir moins de monde, ça permet de former et de former des amitiés qui sont plus basées sur le réel et sur les aventures et les épreuves qu'on vit ensemble, parce que lorsqu'il pleut et qu'il faut faire le feu, c'est compliqué et donc ça nécessite de la résilience et de communiquer. Donc c'est une vie qui est basée sur le réel et c'est une éducation basée sur des amitiés vraies et des moments vécus pleinement.
Et alors au bout de 15 jours, on retrouve les guides comment ?
Oh, on les retrouve fatigués d'abord, mais fatigués et pleines de joie. Et ça, c'est vraiment le signe qu'on a vécu une belle aventure. Et même pour nous, les chef-tens, et pour les guides, c'est vraiment la fin de camp, c'est souvent un moment d'accomplissement. On se rend compte que pendant l'année, pendant le camp, on a évolué, on a grandi, on a acquis de nouvelles compétences. Et non, c'est les guides, la plupart du temps et tout le temps même, de mon expérience, reviennent avec vraiment la joie au cœur et la volonté d'aller plus loin et de se former plus pour la suite.
Et souvent, il y a des pleurs aussi des guides qui partent ou qui montent. Comment ça se passe après ? Il y a autre chose après les guides ?
En effet, il y a trois âges dans le scoutisme européen et dans la majorité des scoutismes. Il y a le scoutisme, le louftisme, donc c'est de 8 à 12 ans, donc elles sont à la clairière. Ensuite, il y a les guides, donc de 12 à 17 ans, à la compagnie. Et après, il y a les guides aînés, donc c'est à partir de 18 ans et jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a les guides aînés pilotes, on dit. Donc là, c'est plus de la marche, c'est entre 12 et 20 ans à peu près. Donc c'est de la marche, plus d'intériorité et apprendre à se découvrir soi-même personnellement, plus en profondeur. Et après, il y a être chef-ten, guide aîné en service. Voilà.
Alors justement, c'est une bonne transition parce que Agnès, donc vous avez 22 ans et il y a deux semaines, je crois, vous avez franchi une étape dans le scoutisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Agnès ?
En effet, dans le scoutisme, on ne cesse jamais de progresser, on ne reste pas statique. C'est Baden-Powell, donc le fondateur du scoutisme, qui disait que si on s'arrête, on régresse. C'est pas tout à fait sa phrase, mais c'est ça l'idée. Donc voilà, donc continuer à progresser, c'est vraiment un objectif de vie. Et donc, dans la progression des guides aînés, il y a trois étapes. Le flot jaune, qui symbolise « je veux continuer à progresser ». Le flot vert, c'est « j'ai choisi une devise, un symbole et une technique d'œuvre ». Donc moi, ma devise, c'est « Talitakum ». Mon symbole, c'est le cairn, la petite pile de cailloux. Et ma technique d'œuvre, c'est la photographie. Et ensuite, nous avons l'engagement guidéné, donc c'est la prise du flot vert. Donc c'est pour dire, je renouvelle ma promesse. À l'âge de 12 ans, donc au guide, on fait une première promesse. Et souvent, on ne comprend pas trop ce qu'on raconte. C'est des mots très forts. Et donc, on voit pas toute la profondeur de ce qu'on raconte. Et donc, à l'âge de 22 ans, après avoir cheminé et progressé dans la progression guidéné, j'ai pris conscience des mots que j'avais prononcés à 12 ans et donc je les ai renouvelés il y a deux semaines. Donc j'ai redit ce que j'avais déjà dit et j'ai complété en disant que je voulais continuer à servir tout au long de ma vie et à aider le mouvement des guides et scouts d'Europe qui m'a appris à servir.
C'était un moment très émouvant.
Oui, j'ai pleuré.
Zoé, vous y étiez ?
Oui, oui, c'est moi qui portais le brossard, donc c'était très émouvant aussi. J'étais très contente de pouvoir accompagner Agnès avec aussi toutes les autres personnes qui ont pu marquer sa route, qui étaient présentes. C'était un moment très émouvant, j'étais très contente de la voir accomplir ça et de pouvoir être là à ce moment-là, oui. J'étais très heureuse.
Merci beaucoup Agnès et Zoé, bravo pour ce beau service que vous rendez aux guides d'Europe. Peut-être il y a des personnes qui entendent cette interview et qui se disent bah, « Tiens, c'est peut-être pour moi soit de rentrer au guide, soit de servir en tant que cheftaine ». Est-ce qu'elles peuvent vous contacter ? Comment ça se passe ?
En effet, on est toujours à la recherche de jeunes motivés pour se lancer dans cette aventure, même si c'est pour essayer à partir de 8 ans, mais à n'importe quel âge, on peut rentrer aux louvettes, aux guides aînés. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et plus tard, lorsque vous êtes étudiant, étudiante, venir aussi servir à la compagnie, chez les louvettes, ou alors même chez les scouts. On est toujours à la recherche de personnes pour nous aider, nous soutenir. Donc, si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas à demander à la paroisse qui vous met en relation avec nous et qui vous donne le contact de nos cheftaines de groupe, de nos chefs de groupe qui sont eux qui s'occupent des parents.
Merci beaucoup et on vous souhaite un bon départ samedi matin, donc avec toutes vos guides en route vers l'Espagne pour 15 jours. Merci Zoé.
Merci beaucoup.
Et merci Agnès.
Merci.
Merci à toutes les deux qui étaient au micro de Laurence Houdemont. On leur souhaite bien sûr un bon petit périple. Allez, il est tout juste 12h passées de 27 minutes. On va faire un point sur l'actualité de notre région.
Présence à Bagnères-de-Bigorre. 88.9.
Et pour cela, nous retrouvons Clémence Roux, qui est étudiante à l'école de journalisme sur Toulouse. Voilà pour l'info de la mi-journée. Bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, la canicule inquiète les médecins à Toulouse. SOS Médecins redoute une hausse du nombre de patients si les fortes chaleurs se prolongent. Les professionnels de santé appellent les personnes les plus fragiles à rester particulièrement vigilantes. La chaleur qui maintient aussi le risque d'incendie à un niveau élevé. Près de Toulouse, à Saint-Alban, un feu a parcouru 6 hectares de végétation. Plusieurs habitations ont été menacées par les flammes. Les sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour contenir l'incendie. Sur le plan économique, Actia Aerospace veut renforcer sa place dans le secteur spatial. L'entreprise investit 8 millions d'euros dans un nouveau site à la Ramée à Toulouse. L'objectif est d'augmenter ses capacités de production et de répondre au développement du marché des satellites. Dans le reste de l'actualité, la canicule pèse aussi sur les producteurs de prunes en Tarn-et-Garonne. À Moissac, les fortes températures bloquent la croissance des fruits. La récolte a donc commencé plus tôt que prévu avec des prunes plus petites cette année. En sport, le Stade Toulousain conteste la lourde de sanctions financières prononcées dans le dossier du salary cap. Le club fait appel de l'amende de 2 880 000 euros infligée par la Ligue nationale de rugby. Le stade juge cette décision injuste et entend poursuivre ses recours. Enfin, à Albi, le festival Pause Guitare célèbre ses 30 ans. Deux expositions retracent l'histoire de cet événement qui a recueilli plus de 1500 artistes au fil des éditions. Photos, affiches et souvenirs permettent de revenir sur 3 décennies de musique dans le Tarn. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
C'est un passionné d'histoire, ancien militaire retraité que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Philippe Lafargue.
Oui, bonjour.
Merci d'être venu au micro de Radio Présence. Moi, j'espère que vous allez devenir chroniqueur à la rentrée prochaine parce que vous avez énormément de choses à nous raconter, des choses un peu atypiques. Je vous avais rencontré au salon des collectionneurs à Soumoulou l'année dernière et vous aviez fait une expo qui avait un drôle de nom.
Oui, c'était Sacré Toubib en fait. C'était une expo qui était consacrée à des médecins, des pharmaciens et des dentistes dont on connaît le nom ou dont on connaît la réalisation, mais on ne savait pas qu'ils étaient médecins, dentistes ou pharmaciens, tout simplement. Voilà.
Et oui, alors j'avais été étonné de voir Sacré Toubib et voir l'habit de Charles Combs et oui, la photo d'Agatha Christie. Je me dis, qu'est-ce que ça vient faire là?
Bah oui, parce que tout simplement, Conan Doyle était médecin, Agatha Christie était pharmacienne, Francis Lopez était dentiste. Voilà, donc c'est des gens un peu atypiques qu'on voilà, présenter.
Vous aimez dans les expositions partir d'un objet qui en fait où on se demande qu'est-ce que vient faire cet objet dans la dans le thème qui a été proposé.
Ben voilà, c'est ça, c'est avec mon épouse, donc on aime voilà que les gens se posent la question, ils viennent pour un thème, ils savent à quoi s'attendre, mais il va y avoir l'objet qui qu'est-ce que ça fait là? Quel rapport avec l'exposition? Et ouais. Ben le but, c'est de l'expliquer. C'est d'aller chercher derrière le décor un peu ce qu'il y a. Voilà.
Demain, c'est mardi 14 juillet, fête nationale. Et en discutant avec vous, vous aviez fait une présentation déjà sur les fameux hymnes nationaux qui sont passés d'âge en âge, de période en période, jusqu'à qu'aujourd'hui ce soit la Marseillaise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Alors aujourd'hui, on connaît la Marseillaise telle qu'on la chante de façon officielle, mais on va remonter un peu, on va repartir depuis le départ. Racontez-nous un peu l'histoire de cette Marseillaise.
Alors, sous l'Ancien Régime, d'abord, il n'y a pas d'hymne national. Il y a des chants pour le roi, pour la personne du roi, mais il n'y a pas d'hymne national. Et puis, donc, la période révolutionnaire va arriver. Donc, je passe les détails. Nous arrivons en avril 1792 et à Strasbourg, il y a un officier du génie qui s'appelle Monsieur Rouget de Lille, Claude Rouget de Lille. Alors, en fait, ça c'est Claude Rouget, son vrai nom. De Lille, c'est le nom d'une terre que ses parents avaient achetée dans le Jura, qu'ils avaient accolé au nom de manière à permettre à leur fils de pouvoir entrer, de faire valoir des quartiers de noblesse et d'entrer aux écoles militaires. Donc, Claude Rouget de Lille a quelques notions, bien sûr, de musique. Et il se trouve à Strasbourg. Il rencontre le maire de Strasbourg, Dietrich, et bon, ils se rencontrent, ils sont tous les deux francs-maçons, ils sont dans la même loge. Ils vont se rencontrer, et un jour, suite au succès des armées de la République face aux Prussiens, aux Autrichiens, dont on veut fêter la victoire du maréchal Luckner. Donc, Dietrich se tourne vers Rouget de Lille, lui dit: Monsieur Rouget de Lille, est-ce que vous pourriez nous composer une chanson, un air pour fêter ça? Alors, bien sûr, mais Rouget de Lille, une chanson, c'est une mélodie, c'est des paroles. Alors, la mélodie, c'est pas évident à composer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire très simplement ce que va faire Claude Rouget de Lille, c'est qu'il va aller chercher un peu sur étagère ce qui existe, si on peut dire, et il va s'inspirer d'un air, largement s'inspirer d'un air d'un monsieur qui est Jean-Baptiste Viotti, qui était compositeur à la cour de Marie-Antoinette et qui, 10 ans avant, dans les années, début des années 1780 à peu près, avait composé ceci.
D'ailleurs, cette version est magnifique, elle est légère, elle est...
Alors, ce que vous venez d'entendre là, ce n'est pas la Marseillaise, c'est la variation en do majeur de Jean-Baptiste Viotti. Donc, c'est une variation pour instrument à cordes, voilà. Cette variation, alors, vous voyez, il n'y a pas que Rouget de Lille, cette mélodie, quelques années plus tard, voyez, vous l'avez trouvé vous-même joli, va être reprise par un monsieur qui s'appelle Grison, Jean-Baptiste Grison également, qui est maître de chapelle à Saint-Omer, et qui va l'utiliser dans une œuvre qu'on appelle Stances pour la calomnie, pour illustrer le drame Esther.
On reconnaît quand même bien.
La mélodie.
Oui. Hein.
Et surtout le final qui va arriver.
Donc, on n'est toujours pas à la Marseillaise qu'on chante aujourd'hui.
On n'est toujours pas. Alors, évidemment, les paroles, Rouget de Lille va s'inspirer de slogans révolutionnaires qu'il va lire. Et alors, dans une nuit un peu euphorique de l'histoire, un petit peu dans la nuit normalement du 24 ou 25 avril 92, va composer cette chanson qui n'a pas de titre encore, qu'on va appeler Chant de guerre, puis après Chant de guerre de l'armée du Rhin dédié au maréchal Luckner. Et alors c'est en fait c'est le maire de Strasbourg. Souvent on voit sur des tableaux Rouget de Lille le chanter. En fait c'est le maire de Strasbourg qui va l'entonner et l'adaptation sera faite par son épouse. Voilà.
Et du maire de
l'épouse du maire de Strasbourg. Et puis bon bah comme beaucoup il y a beaucoup d'air à cette époque. Ça tombe un peu dans l'oubli et nous déplaçons vers le sud et dans le sud du côté de Montpellier il y a un étudiant en médecine qui suit ses idées révolutionnaires, qui s'appelle François Mireur. Et François Mireur trouve cet air entraînant, joli, et va en faire la promotion, abandonne ses études de médecine, il est officier de la garde nationale, et il va faire la promotion de cet air qui va arriver auprès notamment des fédérés marseillais, qui vont remonter par la suite sur Paris en chantant cette chanson. Toujours avec le maire. Il n'y a pas de titre. Et on va appeler ça, les gens, bah, c'est les Marseillois qui montent. Bah, c'est le chant des Marseillois. Voilà. Et dont le chant des
Marseillais.
Ça aurait été des Niçois, ça aurait été des Niçois, ça aurait été des Biterrois, ça aurait été des. Je ne sais pas moi, peu importe. Voilà. Et donc, nous arrivons à Paris et ce chant bah, va se faire connaître. Alors, il va être repris. Il va être même mis à la mode. Alors une version un peu curieuse va être écrite pour clavecin par un monsieur qui s'appelle Claude Balastre qui bah, était musicien à la cour de Marie-Antoinette et bah, il va vouloir sauver un petit peu sa tête en l'adaptant au clavecin quoi.
Aussi,
on reconnaît bien évidemment la mélodie. Alors c'est surprenant évidemment parce que c'est du clavecin, c'est pas dans le goût du jour, mais c'est voilà, c'est comme ça.
Mais là, pour l'instant, ce n'est que de la musique. On n'a pas mis de paroles.
Voilà. Alors, il y a des paroles qui ont été composées, chant de guerre pour la maîtrise. On a les paroles. Il faut savoir que dans l'histoire de la Marseillaise, là on parle plutôt de l'hymne national, là l'histoire de Marseillaise, il y aura des dizaines de versions de la Marseillaise. Il y aura même une Marseillaise des gastronomes, vous voyez, donc on prend un air et on met les paroles dessus, qu'on adapte, on le verra un petit peu plus loin. Alors, évidemment, il y aura même une Marseillaise avec des paroles écrites par les Carmélites de Compiègne, dessus. Une version qui peut être contestée, mais bon, qui existe. Et puis, alors, la convention va dire, mais voilà, ce n'est pas l'hymne national, ça fait partie de l'air chéri des Français. Mais c'est un air qui est reconnu parce qu'il est bien chanté par les Français, mais
il n'a pas un côté officiel.
Il n'y a pas de côté officiel, voilà. Et puis, nous changeons de. Avançons dans l'histoire, le règne de Napoléon arrive. Napoléon Ier, évidemment, est issu de la Révolution. Et lui, pour lui, la Marseillaise, c'est un chant... voilà, ça rappelle une époque qu'il faut calmer. Donc, il va interdire la Marseillaise. Et eh bien, on va chanter une chanson, « Veillons au salut de l'Empire », qui est toujours pareil. L'air va être repris. Hein. Ce n'est pas une composition originale. Hein. Et donc, ça a été composé, cet air, par un chirurgien de l'armée du Rhin. Voilà, version... pardon, veillons au salut de l'Empire.
Veillons au salut de l'Empire.
Donc ça, ça devient un peu l'hymne officiel pendant
voilà,
la période
c'est
de Napoléon Ier.
Là, on est sur le Premier Empire, donc... c'est l'hymne officiel sous le Premier Empire.
Sous le Premier Empire.
La Restauration, alors les deux restaurations vont succéder avec l'intermède des 100 jours, bien sûr, les deux restaurations vont se succéder et là il n'y a pas véritablement d'hymne sous la Restauration. Alors, il y a quelqu'un qui va revenir curieusement, c'est Rouget de Lisle. Alors Rouget de Lisle qui avait composé le chant de guerre pour l'armée du Rhin, qui est devenu la Marseillaise, donc en 1792, va vouloir se mettre au goût du jour, et en 1814, il va composer le chant du Jura pour le nouveau régime qu'on va appeler « Vive le roi ». Hein. Donc c'est un changement de braquet, si on peut dire. Donc voilà un petit peu, vous avez entendu 1792, voilà 1814.
Voilà. C'est le même qui a écrit la Marseillaise.
C'est le même qui a écrit la Marseillaise. Là, apparemment, c'est de lui. Alors, petite curiosité régionale, c'est que Vive le roi, qui n'aura pas de succès, va être chanté par un monsieur qui s'appelle Laïs et qui était originaire de un chanteur d'opéra et qui était originaire de la Barthe de Neste.
D'accord. Voilà. De chez nous.
De chez nous. Puis. Alors, sous cette restauration, il n'y a pas d'hymne national. Il va y avoir un chant. Il y a deux chants, un petit peu, qui se font concurrence. Charmante Gabrielle et Vive Henri IV, qui évoque le même roi, qui est un peu régional d'étape, qui est Henri IV. Et donc, voilà un petit peu le chant. Voilà.
Donc ça devient aussi le l'hymne pendant quelque temps.
C'est pas. Alors ça a pas le
côté officiel.
Ça n'a pas le côté officiel. C'est le chant pour le régime. Voilà. Et alors cet air n'est pas nouveau. Hein, c'est une reprise. Et la mélodie que vous avez vue sera réorchestrée quelques dizaines d'années plus tard par un musicien russe, c'est-à-dire qui s'appelle Tchaïkovski, et cette mélodie très joliment orchestrée apparaîtra dans la scène finale du ballet La Belle au Bois Dormant.
D'accord. Voilà.
Donc nous sommes à la Restauration. Alors sous les deux périodes de 1830 et 1848, les deux révolutions, on va rechanter la Marseillaise. On va rechanter. Ça sera un chant révolutionnaire, hein, puisque c'est pas si vieux que ça. Mais ça sera pas officiel. Hein, ça sera pas officiel. Et par contre, il y a un monsieur, un français, qui s'appelle Hector Berlioz et qui va faire une très belle orchestration de la Marseillaise, notamment en hommage aux morts des Trois Glorieuses. Donc, on va écouter un extrait de cette version d'Hector Berlioz. Il y a du coffre.
Il y a du coffre, dans la musique et dans la voix, bien sûr.
Dans la voix, et puis dans les chœurs qui suivent dans quelques instants, vous allez voir pour le refrain.
Ouais,
Voilà maintenant les chœurs.
Ça met des frissons. C'est
ah,
beau.
Ça remue, ah, ça remue les tripes.
Il réapparaît et il est toujours aussi populaire.
Alors, oui, il réapparaît, mais il est toujours pas hymne national. Pourquoi? Ben parce que après ces périodes insurrectionnelles, 1830 va arriver ce qu'on appelle la monarchie de Juillet. C'est-à-dire que c'est Louis-Philippe qui n'est pas roi de France, qui est roi des Français. Et donc, Louis-Philippe, la Marseillaise, non, c'est quand même un chant, sa connotation insurrectionnelle, on va pas le prendre. Donc on va s'inspirer d'une... Il faut créer quand même un hymne, un chant, et on va s'inspirer d'un chant que chantaient les soldats allemands, qui partaient combattre avec les Anglais contre les Américains et les Anglais, la guerre d'indépendance. Et on va prendre cette mélodie, on va adapter, on va s'en inspirer, on va prendre des paroles, mettre des paroles dessus, et ça va devenir la Parisienne.
Elle aurait très bien pu être un hymne encore aujourd'hui. Hein. On sent quand même un peu la chose militaire. Un peu.
Oui, c'est alors évidemment, bon, c'est chanté d'une manière cadencée.
Oui.
Hein. Alors vous verrez que justement, la manière dont on chante un chant, ça peut être ça peut être entraînant, ça peut être moins entraînant. L'exemple qui suit va nous le montrer. Nous sommes sous le Second Empire. Donc Napoléon, enfin le prince président Louis Bonaparte est devenu Napoléon III et il lui faut un hymne. Donc il devait bien sûr pas prendre la Marseillaise que n'avait pas pris déjà son oncle et il va s'inspirer tout simplement d'une romance écrite par sa mère, la reine Hortense. La reine Hortense, dont nous avons le souvenir dans les Pyrénées, hein, il y a une colonne qui passe son passage quand on va sur Luce. Voilà. Et la reine Hortense avait composé en partant pour la Syrie. Alors, quand on écoute les paroles en partant pour la Syrie, pourquoi? Parce qu'on avait fait une campagne militaire qui est complètement oubliée en Syrie à cette époque. Et, les paroles, c'est plus une prière à Marie par un soldat qui part à la guerre. Donc, en partant pour la Syrie, la première version un peu de salon, part donc sur un air de la reine Hortense.
C'est un extrait donc de l'hymne que donc Napoléon III a pris pour lui, pour son hymne quoi.
Voilà, en partant pour la Syrie, c'est devenu l'hymne du régime, on va dire.
Régime, oui.
Hein, je ne parle pas d'hymne national encore, d'hymne du régime et après bon, il va, on va dire, militariser un peu pour ses troupes, voilà. Quelques mesures de la version militaire, on va dire.
Oui, on est plus solennel, oui.
Voilà.
Okay.
Oui. Donc c'est beaucoup plus
militaire,
oui. Entraînant.
Okay.
L'Empire s'écroule, évidemment, guerre 70, puis la période de la Commune. Alors c'est assez paradoxal parce que la Marseillaise, enfin, voilà, va être chantée des deux côtés, à la fois par les Versaillais, avec des paroles classiques, et elle va être chantée par les communards, avec des paroles adaptées
donc
voici voilà donc eh bien une Marseillaise si on peut dire communarde.
Cette période un peu particulière de la Commune, c'était... donc cette mini-révolution sur Paris.
Voilà, il y a eu des répliques, on va dire, qui sont moins connues en province. Curieusement, après, eh ben, la Marseillaise, sous les débuts de la Troisième République, ben, va être, donc on a vu une version communarde, elle va être rechantée, elle va avoir le... un petit peu l'étiquette de chant nationaliste.
D'accord.
Voilà. Bon, l'histoire avance, donc la Troisième République va arriver, et la Marseillaise, elle va être officialisée, eh bien, le 14 février 1879. C'est à ce moment-là qu'elle devient officiellement l'hymne national.
Des Français.
Voilà, l'hymne national de la France. D'accord. Donc elle va être enseignée dans les écoles, partout, au service militaire, bien sûr, on chante la Marseillaise, et puis on va la représenter. Alors, cette Marseillaise, c'est un chant, mais elle va apparaître dans la sculpture. On a vu, elle est souvent symbolisée dans le départ des volontaires de Rude qui est sur l'Arc de Triomphe. On va la voir, il va y avoir un film de Jean Renoir. La Marseillaise, il va y avoir des timbres à l'effigie de Rouget de Lille, ainsi de suite. Et puis, bon, elle va devenir officiellement l'hymne, vraiment l'hymne national. Là, on a vu des hymnes par rapport au régime, des chants de régime. Là, c'est vraiment l'hymne national. Et puis, donc, sous la période de l'occupation, elle va être interdite en zone occupée, pardon, elle sera, bien sûr, elle chantera, entre parenthèses, si on peut dire, chantée sous le manteau, mais elle sera quand même chantée. Elle va être chantée, bien sûr, en zone libre. Elle cohabitera avec, non pas un hymne national, mais un chant dédié au chef de l'État, qui est un maréchal nouveau là, dont la musique elle-même, l'air n'est pas une composition, c'est une adaptation d'une chanson d'un film, La Margoton du bataillon, et ensuite qui était devenu l'hymne du Tour de France, La Fleur au guidon. Vous voyez, donc la musique, ça voyage, hein, oui. c'est la plus mouvante, la musique. Et donc, notre Marseillaise, elle conduit son chemin, elle est chantée par les militaires, hein, lors des opérations, lors de cérémonies, et puis bien sûr, on est en pays de rugby, alors on ne peut pas mettre sous le boisseau, si on peut dire, la Marseillaise chantée par les rugbyman.
Voilà.
Voilà, avec l'orchestre qui, bien sûr, s'est arrêté.
Voilà.
Et bien sûr, tous les spectateurs qui étaient présents pour un match de rugby, pour cet extrait, chantent a cappella. Donc, voilà.
C'est-à-dire que ça a débuté en musique et puis l'orchestre s'est arrêté. Généralement, les chefs de musique militaire, les chefs de musique militaire le sentent, si vous voulez, en fonction du public, et ils ont arrêté et ils ont laissé le public continuer. Voilà. Et donc, aujourd'hui, souvent, la version qui est chantée officiellement, c'est souvent celle qu'on a entendue, qui avait été composée par Hector Berlioz, et qui est cette version un peu symphonique.
Qu'on a écouté tout à l'heure.
Tout à l'heure. Voilà.
Voilà un peu l'histoire. À cette veille de 14 juillet où effectivement donc la Marseillaise qui vient donc de ces Marseillais qui sont montés à Paris.
Qui vient en fait à la base d'un chant, d'une variation d'une musique pour un orchestre de chambre.
Oui.
Voilà, qui a été elle-même adapté, qui a été lui-même adapté pour faire rentrer dans une pour illustrer un poème religieux, sur la calomnie d'Esther,
qu'on a entendu.
Esther, voilà, à l'orgue, et puis qui va devenir un chant militaire, un chant militaire qui va changer de titre. Alors, ça va être un peu hésitant, puis en fonction des régimes, on n'en veut plus. On le remplace par un autre. Mais vous avez pu voir qu'à chaque fois, en fait, il n'y a pas de composition originale. On reprend.
Oui.
Une mélodie qui existe quelque part.
Aujourd'hui, on serait dans des procès inimaginables de droits d'auteur qu'on n'imagine même pas.
Voilà, mais en fait, c'est une chose très courante. Il y a un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Gainsbourg, qui reprenait souvent des airs qui existaient à droite à gauche. Mais c'est souvent même une pratique très courante dans le champ militaire. Ça, j'ai un ami, un spécialiste qui s'appelle Thierry Bouzard, qui pourrait vouloir en parler. Où beaucoup de chants militaires en fait passent les frontières, vont d'un pays à l'autre, on change les paroles et c'est ça qui est intéressant avec la musique, c'est très surprenant.
Ouais. La musique, c'est la maison, et puis bien, la maison, bien, si on change la tapisserie, ça change beaucoup l'intérieur.
Et voilà.
Ouais. Voilà tout ça. Merci beaucoup, Philippe Lafargue. Vous êtes passionnant, bien sûr, on vous écouterait des heures. Petit clin d'œil pour cette veille de 14 juillet de fête nationale avec la Marseillaise et l'hymne aujourd'hui nationale. Vous nous avez fait voyager dans le temps, où elle a été à l'ombre depuis. Et puis plus à la mode, et d'autres chants sont venus remplacer, même si ça n'avait pas un caractère officiel. Mais voilà. Et puis jusqu'à aujourd'hui, où bien sûr, sur toutes les cérémonies qu'il va avoir partout en France, on chantera donc la Marseillaise. Un grand merci Philippe Lafargue, je vous souhaite de bonnes vacances, et puis moi j'espère vraiment qu'on se retrouvera pour la saison prochaine, car vous êtes quelqu'un de passionnant, et vous allez nous apprendre plein de choses à travers l'histoire, à travers des objets, à travers la musique aussi, comme on l'a fait aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt.
Eh bien, je vous en prie, à bientôt.
Dans le Comminges, 94.1.
Radio Vatican,
le journal.
le journal.
Le pape déplore la reprise des bombardements dans le golfe Persique, exhortant à ne pas laisser la lumière de l'espérance.